Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Certains risques sociaux réduisent la capacité de travailler ou d'exercer une activité. C'est le cas, par exemple, des maladies, la vieillesse, l'invalidité, le chômage. Alors, comment la société peut-elle sécuriser ses membres face à ces différents risques de la vie? Ce sont des risques de la vie qui peuvent arriver. Vous travaillez un jour, vous n'êtes plus en mesure de le faire. Alors, comment assurer son lendemain? Comment être sécurisé socialement? On en parle avec Jean-Paul Kalala, il est juriste et consultant indépendant, il enseigne la sécurité sociale à l'INPP. Monsieur Jean-Paul, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Alors, déjà, on va répondre à cette question, comment sécuriser les citoyens face aux risques de la vie?
Bon, comment sécuriser? Peut-être commencer par d'abord définir en quelques mots la sécurité sociale, c'est quoi, même si le droit n'a pas donné la définition d'une manière assez détaillée de l'expression, mais à notre compréhension, nous disons que la sécurité sociale, c'est la protection du travailleur pendant qu'il est en plein exercice de son métier et après la cessation des activités, c'est-à-dire à l'âge de retraite. C'est ça la sécurité sociale. Et pour prétendre être protégé par le régime de la sécurité sociale, il y a des conditions que la loi a fixées.
Donc c'est ça la meilleure façon, on peut dire, pour protéger les travailleurs, les citoyens.
Si. Voilà.
Il faut recourir à un régime de sécurité sociale.
Si, ça c'est la condition sine qua non. Il faut à tout prix passer par là. Okay. Et la loi a posé deux conditions principales. La première condition, pour toute personne, là on est en train de parler des travailleurs. Il faut être assujetti au régime de la sécurité sociale, c'est-à-dire être soumis aux dispositions du Code du travail. Et ici, on ne parle pas de tout travailleur. Nous parlons seulement des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail. Deuxième condition, c'est être immatriculé ou avoir le numéro d'immatriculation INSS. Voilà les deux conditions principales qui sont posées par la loi.
Voilà, être assujetti au régime de la sécurité sociale,
si.
Et avoir un numéro
d'immatriculation.
Alors, maintenant d'abord à la première condition, être soumis au régime de la sécurité sociale. Expliquez-nous davantage comment ça fonctionne et quelle est l'importance de cette sécurité et comment ça marche.
Voilà, nous l'avions dit tout à l'heure, l'objectif principal de la sécurité sociale, c'est la protection de l'agent contre certains risques professionnels. Et quand nous parlons des risques professionnels, sont notamment les accidents de travail. C'est notamment les maladies professionnelles. Pendant que l'agent preste, en cas de maladie professionnelle ou en cas d'accident de travail, ce n'est pas lui qui se prend en charge, c'est plutôt l'employeur qui le prend en charge. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est après la cessation des activités, le travailleur ne sait plus produire. Il est retraité, il est en pension. Désormais, après la pension, on ne sait plus être salarié. On doit maintenant vivre de toutes les réserves qui ont été faites pendant tout le temps qu'on était en train de travailler. Or, pour profiter de tous ces avantages, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le travailleur, si pas l'employé, doit être assujetti. Or, ce n'est pas lui qui doit se faire assujettir lui-même.
Oui.
Voilà, ce n'est pas lui.
Alors, si je comprends bien, si vous voulez bien assurer vos vieux jours, c'est en fait une forme d'épargne. Vous mettez de l'argent de côté. Et lorsque vous serez vieux, fatigué, vous ne pouvez plus travailler, vous êtes malade, invalide, alors cet argent peut vous aider à vivre.
Voilà. Peut-être une petite précision avant qu'on évolue.
Oui.
La sécurité sociale dans la République du Congo couvre trois branches principales.
Lesquelles?
Nous avons la branche de pension, qui s'ouvre à 65 ans pour l'homme, 60 ans pour la femme, sauf la loi précise cas de retraite anticipée qui s'ouvre à 55 ans. La deuxième branche, c'est la branche de risque professionnel. Dans cette branche, nous avons les maladies professionnelles ainsi que les accidents de travail. Et la troisième branche, enfin, c'est la branche de l'allocation familiale. Bon, peut-être ici, on peut seulement développer par rapport au temps la branche de la pension pour savoir quelles sont les modalités prévues afin que le travailleur puisse bénéficier de cette réserve après l'âge de retraite.
Vous avez dit l'âge de la retraite, c'est 65 ans pour l'homme.
60 ans pour la femme.
60 ans pour la femme.
Voilà.
Pourquoi?
Bon, pourquoi ça? C'est la volonté du législateur. Il n'y a pas trop de raisons fondamentales qui ont justifié cet âge-là ou la différence entre l'homme et la femme par rapport à l'âge, mais seulement il a été prévu 65 ans pour l'homme, 60 ans pour la femme. Et j'ai dit sauf pour la retraite anticipée qui s'ouvre à 55 ans. Voilà.
Voilà, il y a certaines personnes qui vont en retraite anticipée. D'elles-mêmes, elles décident ou bien c'est
l'entreprise qui... Non, elles ne décident pas. Moi, encore l'entreprise, il y a des conditions qui sont posées par la loi par rapport à cela pour bénéficier de la retraite anticipée. La loi dit, première condition, il faut être tombé malade, perdre ses facultés mentales et physiques et ne plus être à même de produire un travail salarié. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, avoir l'âge. 55 ans déjà, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, cette retraite est déclarée anticipée parce qu'elle intervient avant l'âge légal. Voilà. Donc, avoir perdu ses facultés mentales de production, ne plus être à même de produire un travail salarié, et enfin, la retraite intervient avant l'âge légal.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure pour être assujetti à ce régime, donc il faut d'abord, un travailleur doit être assujetti à ce régime pour bénéficier de la sécurité sociale et avoir un numéro matricule.
C'est ça.
Et la procédure, c'est comment
la procédure pour
l'obtenir à ces numéros?
C'est ça. C'est ce que je disais. Le travailleur lui-même ne s'assujettit pas. La loi impose l'obligation à tout travailleur. Et l'article 1er de l'arrêté départemental, ou pas l'arrêté départemental, plutôt la loi, le décret-loi du 29 juin de l'Organisation de sécurité sociale, 1961, dit « Tout employeur est obligé dès l'embauchage du premier travailleur. » On ne doit pas attendre qu'on ait deux, trois. Dès qu'on embauche la première personne au sein de son entreprise, on est tenu de se faire assujettir. Là, c'est l'employeur. Alors, l'assujettissement de l'employeur ouvre automatiquement l'assujettissement du travailleur. Parce que l'INSS ne coopère pas directement avec les travailleurs. Cette institution publique de l'État travaille indirectement avec les travailleurs via les employeurs. Donc, c'est l'employeur qui doit commencer par se faire assujettir d'abord lui-même. Lorsqu'il se fait assujettir, c'est-à-dire il s'affilie au régime de l'INSS, il est reconnu comme employeur. Il donne l'effectif de son personnel, ainsi que l'identité de chaque personne engagée. C'est là que l'INSS délivre alors à chaque travailleur de l'entreprise assujetti déjà les numéros d'immatriculation. Maintenant, le travailleur, plutôt le bailleur, si pas l'employeur, vient pour distribuer les cartes d'immatriculation à chaque travailleur. C'est ça la procédure.
Et chaque travailleur sait que mon numéro, c'est tel. C'est un numéro pour la vie, disons.
Si, c'est un numéro pour la vie. La loi dit un seul numéro pour un seul travailleur et définitivement. Donc, pour toute la vie du travail, pendant la vie de travailleur. On ne doit pas changer ces numéros-là.
Voilà. Et quelle est son importance? Quand on a son numéro et après, quels sont les avantages et les bénéfices qu'on va tirer après?
Pour la branche de la pension, le taux imposable, la loi dit, la contribution, c'est 6,5% du salaire du travailleur pour la branche de la pension. Pour toute personne qui porte le numéro d'immatriculation INSS, dans son compte INSS, chaque fin du mois, l'employeur, le patron, doit mettre dans son compte 6,5% de son salaire, non de sa rémunération, de son salaire. Les 6,5% sont répartis de la manière suivante. 3% à la charge de l'employé, 3,5% à la charge de l'employeur. Et c'est peut-être par rapport à cela que la majorité des employeurs ne veulent pas se faire assujettir pour ne pas prendre la charge.
Vous avez dit combien de pourcents?
6,5% au total,
oui.
3% pour le travailleur, 3,5% pour l'employeur.
Donc c'est pour cela que la plupart des employeurs n'aiment pas
parce que c'est une charge qui leur incombe.
Oui.
C'est une charge qui leur incombe.
Voilà, nous avons des auditeurs qui appellent déjà. Désiré Campachi nous appelle de Colézi. Et Daniel Mali de Bukavu, vous voulez également participer? N'attendez pas les dernières minutes. Le standard est ouvert. Composez les 081-890-6394 pour vous faire inscrire et nous allons vous rappeler.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit, avec les mix de DJ Daddy.
Quelle est l'importance de la sécurité sociale? Désiré Kampachi, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Katama, et bonjour aussi à l'invité du jour.
Bonjour. On vous écoute, Désiré.
Monsieur Jody, j'ai quelques préoccupations que je voudrais poser, n'est-ce pas, à l'invité par rapport au sujet si important du jour. Hein. La première, c'est comment arrive-t-on à calculer les miettes, ces miettes-là que, n'est-ce pas, les travailleurs auraient cotisé pendant ces services? Ça, c'est un. Et deuxième question, c'est quelle est la capacité contributive d'un travailleur à la dite branche, donc la sécurité sociale? Et puis, l'employeur, est-ce qu'il a droit de retenir une partie du salaire d'un travailleur qui a signé un contrat à durée déterminée ou bien un journalier?
Merci, Désiré.
Voilà, mais okay, merci. En tout cas, en passant, je dis bonjour aussi à tous, n'est-ce pas, vos fils, n'est-ce pas, et Alain Roum.
Merci, Désiré de Kolwezi, Alissano. Daniel Mali, de Bukavu, bonjour.
Bonjour, j'ai Désiré Kachama.
On vous écoute, Daniel.
Oui, j'ai des préoccupations à notre invité.
Oui.
La première préoccupation, j'aimerais savoir, puisqu'il parle à ce qui concerne la matière de la sécurité sociale, donc comment on sécurise les agents de la fonction publique dans les services de l'État.
Oui.
Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tous les agents de la fonction publique ne sont pas régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État? Si c'est oui, pourquoi ces gens-là ne sont pas sécurisés dans la matière de la sécurité sociale? Puisque on voyait, par exemple, ici chez nous, dans la ville de Bukavu ou dans à l'extérieur de la ville, beaucoup de gens, les fonctionnaires là, ne sont pas bien sécurisés à ce qu'on fait en matière de services sociaux. On ne sait pas pourquoi.
Bien, d'accord, merci.
La deuxième préoccupation.
Oui.
La deuxième préoccupation, j'aimerais savoir pourquoi les agents là, qui sont plus âgés dans la fonction publique, n'arrivent pas à être retraités. Si c'est dit au maximum du moyen ou pas, on ne sait pas.
D'accord, merci. Célestin Kabea, vous nous appelez de Kananga. Bonjour. Célestin, bonjour. Voilà, il n'est plus en ligne. On va accueillir Florent Mumba, qui nous appelle de Kalemi. Florent, bonjour.
Bonjour, le CGD. Je vous appelle plutôt de Kolwezi, pas de Kalemi.
Pas de Kalemi, Tati. C'est de Kolwezi. Merci. On vous écoute, Florent.
Bonjour, monsieur Jedi. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de Radio Okapi. Au fait, c'est un sujet très, très intéressant par rapport à nous qui sommes employés dans des entreprises telles ou telles part. Au fait, j'ai deux petites préoccupations. La première, je voudrais savoir, je pose la question à l'invité, en cas de décès d'un agent ou d'un licenciement, je prends l'exemple de quelqu'un qui meurt à 50 ans d'âge en cours d'emploi. Mais qu'adviendra-t-il au moment où la personne devait totaliser 65 ans d'âge? Parce que pendant qu'elle travaillait, elle contribuait déjà, elle donnait ses cotisations à l'INSS. Mais à 50 ans, elle meurt. 65 ans après, si elle était en vie, qu'est-ce qui pouvait arriver? Et pendant qu'elle est décédée, qu'est-ce qui va arriver avec sa famille? De deux, le montant des cotisations doit-il être retenu sur le salaire de l'agent ou c'est un forfait que l'entreprise doit sortir? Merci.
Bien, merci. Florent de Kolwezi. Monsieur Jean-Paul, vous avez suivi les auditeurs.
Il y a certaines questions qui sont perdues. Peut-être on doit les récupérer. On commence peut-être par le dernier auditeur.
Oui.
Il dit la première question ou le premier volet de sa question.
Les travailleurs meurent à 50 ans.
Voilà.
Alors qu'est-ce qui va arriver après?
L'auditeur doit comprendre que la réserve qu'il fait à l'INSS n'est pas exclu de la gestion de son patrimoine. Le droit de bien congolais dit chaque personne a un patrimoine. Quelle que soit la grandeur de ce patrimoine, c'est un seul patrimoine. Et tout ce que nous avons, nous tous qui travaillons à l'INSS, fait partie de notre patrimoine. Seulement, nous avons droit à accéder à ces patrimoines à l'âge de 65 ans. Là, on est dans la branche pension pour les hommes, 60 ans pour la femme. Mais si le travailleur décède avant 65 ans, désormais, il y a ouverture de la succession. Ce n'est pas lui, le découvreur ou ce qui vient de décéder, qui doit encore vivre, c'est sa famille. Et par rapport à cette succession, la loi est claire, ce ne sont pas tous les appelés à la succession qui doivent jouir de ces patrimoines réservés à l'INSS. C'est seulement ses enfants et sa femme. Seulement.
Donc on ouvre la succession immédiatement après le décès.
C'est ça la loi. La
succession, on ne va pas attendre jusqu'à 15 ans après pour
automatiquement, attendre. Automatiquement, la loi dit c'est automatiquement après le décès, on ouvre la succession. Et pour des raisons d'ordre social, nous disons non, on doit d'abord pleurer le papa, puis peut-être après l'enterrement,
on va voir.
Mais la loi dit c'est automatiquement.
Alors, à ce moment-là, à qui est-ce qu'on va remettre cette pension? Est-ce que le papa, avant sa mort, doit absolument déclarer qu'après ma mort, elle remettait cette pension à tel autre membre de la famille?
Qu'il le déclare ou pas, aussitôt qu'il est décédé, les enfants qui sont reconnus enfants légitimes de Kouyous doivent aller auprès du bureau, si pas de l'agence de l'Institut national de sécurité sociale, le plus proche de l'endroit où il vit, pour se déclarer, et on va vérifier dans le compte de papa le montant qui s'y trouvait, on doit le donner, et le partage par rapport à cela, la loi a prévu. La loi a prévu comment on doit faire les calculs pour donner une part aux enfants qui sont restés et à la veuve ou au veuf. Voilà.
Et à ses frères et sœurs, les tantes, les oncles, ils n'ont pas droit.
Ils n'ont pas droit.
Ils n'ont pas droit à cela. Célestin est en ligne depuis Kananga. Bonjour Célestin.
Bonjour Dudy, bonjour également à notre invité.
On vous écoute.
Moi, j'ai pratiquement deux questions à poser. La première, je voudrais demander à notre invité de me donner la différence qui existe entre la sécurité sociale et la législation sociale. Alors, la deuxième question, je voudrais savoir combien de temps on peut accorder à un travailleur qui a perdu peut-être une personne de sa famille. Si je pose cette question, c'est par rapport à ce que je viens de connaître tout à l'heure.
Combien il y a un accident de notre université. Oui, Célestin, la deuxième question, on n'a pas bien compris.
J'ai dit la deuxième question, je voudrais que notre invité nous dise combien de temps on peut accorder à un travailleur qui est éprouvé, qui a perdu peut-être un membre de sa famille. Si je pose cette question, c'est par rapport à ce que je viens de connaître tout à l'heure. Il y a un assistant de notre université qui venait de perdre son professeur. Alors l'assistant habite actuellement à Kananga, mais son père est décédé depuis la fuite de Goma. Alors cet assistant est parti, il est revenu, il n'y a même pas une semaine. Lorsqu'on essaie un peu de demander par rapport à cette question, il dit non, le délai qu'on m'avait accordé par l'université n'était pas vraiment suffisant. Alors c'est pourquoi je suis allé et je suis revenu plus vite. Alors je voudrais que l'invité nous dise combien de temps on peut accorder à un travailleur qui venait peut-être de connaître vraiment un deuil, qui a perdu peut-être un membre de sa famille.
Mais ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale, on dirait.
Oui. Alors, c'est ce que je voulais dire. Alors, je voudrais encore soulever un point. Bien sûr, ça semble être une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, ces derniers temps, ici, quand nous sommes en train de connaître un problème. Donc, c'est difficile pour pouvoir écouter la radio Capu en FM.
Alors, Célestin, voilà, ça n'a rien à voir avec l'émission. Il suffit de nous envoyer un SMS, nous allons faire parvenir l'information aux responsables. Merci d'avoir appelé. Patient Paul, vous êtes à Kinshasa. Nous parlons de l'importance de la sécurité sociale. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel.
Alors, soyez bref, quelle est votre question parce que les autres attendent?
Oh oui. Ma première question de savoir donc par quelle différence le numéro matricule se différencie donc avec celle de la fonction publique santé et enseignement. Alors que parce qu'il y a certaines personnes, soit des actifs, qui bénéficient de déficit d'argent ou assistance de l'INCC.
L'INCC.
D'après l'invité, comment savoir si réellement cette personne est engagée et a droit à cette aide? Dans plusieurs entreprises publiques, il y a des cacophonies sur le nombre exact que l'État a embauché. D'après donc l'invité, l'INCC se limite-t-il seulement à aider ou cherche aussi à savoir donc ou à identifier le nombre de gens vraiment que l'État donc a engagé. Et comme dernière question, pourquoi au Congo les gens ne veulent pas être retraités? Car nous avons les personnes
voilà,
qui
merci.
Ont travaillé depuis
d'accord.
la première République jusqu'à ce jour,
oui, qui
elles
veut...
sont toujours aux commandes.
D'accord, voilà, merci. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission prochainement. Guy Lumingu nous appelle depuis Kolwezi, où nous sommes écoutés grâce à la RCL. Guy, bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour, invité.
On vous écoute.
Oui, j'ai une petite question de savoir. L'invité peut nous expliquer de la manière dont nous sommes en train de voir ici chez nous, Katanga. Un agent qui a signé un contrat à durée déterminée, par exemple de 2 ou 3 ans, est-ce que lui aussi il est contraint de payer la caution là-bas pour l'INSS? Et c'est lui qui a signé aussi un contrat à durée indéterminée. Tous doivent payer de la même façon ou ça doit être séparé.
Merci Guy Lumingu. Voilà, monsieur Jean-Paul, beaucoup de questions. Hein.
C'est ça, on doit tenter de ramasser.
Ramasser rapidement. Si, si. Revenons d'abord à Désiré qui nous a appelé à Décolosi, qui dit comment calcule-t-on la quote-part ou la part qui doit être remise aux travailleurs.
Nous avions dit, pour la branche de la pension, c'est 6,5%. 3% qui sont pris en charge par le travailleur lui-même. 3,5%.
Ça, c'est pour les cotisations.
Ça, c'est pour les cotisations.
Et ça se fait mensuellement.
C'est chaque mois.
D'accord.
C'est chaque mois.
Alors, et puis, il parle de quelle est la capacité contributive de chaque travailleur. Vous avez dit, c'est 3...
Si, sa capacité, c'est par rapport au salaire.
Au salaire, hein. Oui.
Et là, je précise, les 6,5%, c'est un montant déduit non de la rémunération. Il faut faire la part des choses. Entre la rémunération et le salaire. C'est un montant déduit du salaire de l'agent. Et chacun, là où il est, s'il travaille, il peut prendre son bulletin de paie, voir le salaire qu'il a, et il déduit de ce montant-là 3% qu'il lui prend en charge. Et les 3,5%, c'est pour le...
C'est pris en charge par l'employeur.
Voilà.
Voilà. Et Daniel de Bukavu dit, il parle du statut du personnel des carrières de service de l'État. Il dit, il a l'impression que beaucoup de travailleurs, ceux qui sont dans la fonction publique, ne sont pas sécurisés socialement. Il veut savoir pourquoi.
La sécurité sociale, en principe, couvre ou protège tous les travailleurs. Il n'y a pas de distinction par rapport à cela. C'est tous les travailleurs. Seulement, c'est le montant de cotisation qui diffère selon les régimes. Et les 6,5% dont nous parlons ici, c'est juste un montant prévu pour les travailleurs qui sont soumis aux dispositions du Code du travail. Et pour les régimes particuliers, notamment les magistrats, les militaires, les policiers, ils ont un régime et chaque régime détermine son taux d'application. Voilà la réalité.
Voilà, et généralement après, certains travailleurs qu'on voit affiliés à l'INSS, qui ont pris de l'âge, souvent le montant qu'ils reçoivent, c'est un montant dérisoire qui ne leur permet même pas de subvenir à leurs besoins.
Si. Cela est dû au taux faible même du salaire accordé à ces agents-là, c'est normal. Quelqu'un à qui on donne 50 000 francs le mois, les 3% des 50 000, c'est combien par mois? 30 ans, c'est combien? C'est un montant dérisoire.
Un montant dérisoire.
Voilà.
Ouais, c'est bien dommage. Hein. Alors voilà, vous avez déjà répondu à la question de Florent. Il y a également Célestin qui demande quelle est la différence entre la sécurité sociale et la législation sociale.
La législation, légiférer, c'est légir. Il n'y a pas de confusion à faire là-dessus. Légiférer la loi, c'est l'ensemble de lois qui réglementent, qui régissent la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un régime. Et la législation, c'est la loi, l'ensemble de lois qui régit ces régimes-là.
Mais tout à fait. Quelle est l'importance de la sécurité sociale? On va accueillir David Kenge de Kolwezi dans quelques instants.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer à Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon, et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport. Car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Quelle est l'importance de la sécurité sociale? Nous recevons aujourd'hui Jean-Paul Kalala, juriste et consultant indépendant. Il enseigne la sécurité sociale à l'INPP. David Kenge nous appelle de Kolwezi. David, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour monsieur, je suis vraiment content. Je dis merci encore à l'invité. Et j'ai juste deux petites questions à lui poser.
Oui.
Par rapport à la médecine et hygiène au travail, la législation assigne à la médecine en général, je pense, le rôle de prévenir d'abord, de diagnostiquer, de traiter les affections de l'organisme humain. Et maintenant, j'aimerais savoir si réellement la médecine et l'hygiène au travail dans notre pays est respectée.
Voilà, ça c'est une autre... David, ça c'est...
Je voulais juste
David,
savoir si David, la médecine et l'hygiène au travail dans notre pays est respectée.
Voilà, ça c'est une...
Ce que nous voyons David, dans les entreprises de la place, nous pensons...
Merci David, ça c'est... c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, David. Bon, merci de nous le proposer, nous allons le garder pour une prochaine émission. Martin Boukassa, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour aussi à l'invité.
Nous parlons de l'importance de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup pour l'importance du sujet du jour. Moi, j'avais une préoccupation et une question aussi à poser à l'invité.
Oui.
Bon, tout d'abord, au début, l'invité a parlé que pour ce qui concerne la cotisation à l'INSS, il faudrait que l'entreprise qui est donc l'entreprise puisse être en ordre avec les codes du travail. Bon, moi je m'inquiète un peu quand je vois il y a certaines entreprises qui ne sont pas en règle avec les codes du travail, mais je vois l'INSS est en train de poursuivre ces entreprises pour la cotisation de l'INSS. Alors, moi, j'avais une préoccupation, j'avais une question que je voulais poser à l'invité. Pour une personne qui était engagée dans une entreprise et que l'entreprise arrivait à tomber en faillite, que la personne n'a pas atteint l'âge de retraite, mais quel sera son sort si ce dernier était en train de cotiser chaque fin du mois cotisation à l'INSS.
D'accord, merci Martin.
Savoir,
bien, merci Martin. Revenons d'abord à la question de Guy d'Ecologie. Il dit un travailleur qui a un contrat à durée déterminée, est-ce qu'il va-t-il cotiser à l'INSS
qu'est-ce
ou pas?
Dit par rapport à cela, je préfère peut-être qu'on lise rapidement la disposition. Oui. Les travailleurs visés au premier paragraphe de l'arrêté départemental du 10 avril 1978 sont notamment les suivants. Donc, les travailleurs visés comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels. Donc, la loi est claire. On connaît un contrat à durée déterminée. Connaît un contrat à durée indéterminée.
Qu'on soit journalier,
oui. La protection sociale concerne tout le monde. Donc, on ne doit pas être, sinon parce que moi je suis journalier, je suis à durée déterminée, je ne veux pas cotiser. Tout le monde doit cotiser pour assurer sa vie sociale après l'âge de retraite.
Alors Martin Boukassa de Lubumbashi dit l'entreprise tombe en faillite et on n'a pas encore atteint l'âge de la retraite. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Lorsque l'entreprise tombe en faillite, c'est normal, c'est-à-dire on cesse de prester au sein de cette entreprise-là, mais on continue à garder son numéro d'immatriculation. On continue à garder son numéro
c'est
de
pour
matriculation,
la vie.
C'est pour la vie.
Même si vous allez, on
Même
vous engage
si vous
ailleurs,
allez ailleurs,
vous avez toujours
la
votre
loi
numéro.
Dit, la première question que le nouvel employeur doit poser au nouvel employé, est-ce que vous êtes déjà immatriculé à l'INSS? Si oui, donnez le numéro. Et lui doit continuer à alimenter le même compte, le même numéro. C'est ça la procédure légale. Voilà.
Voilà. Les patients de Kinshasa posent la question de savoir quelle est la différence entre le numéro matricule qui accorde à l'INSS et le matricule que les autres ont à la fonction publique.
Voilà.
Est-ce que c'est différent?
C'est différent. L'immatriculation INSS, c'est pour la sécurité sociale. Ça n'a rien à voir avec l'immatriculation par rapport aux services que nous avons. Il n'y a rien à confondre. Là, on est immatriculé pour le régime de sécurité sociale. Ça a un compte. Les numéros d'immatriculation INSS, c'est un compte qu'on ouvre pour assurer la protection sociale d'un travailleur. Alors que les numéros d'immatriculation ou les numéros matricules même que nous avons pour les services, c'est un numéro qui reconnaît qu'un agent a été engagé à durée indéterminée dans une entreprise publique de l'État.
Voilà. Alors, est-ce que les travailleurs dans une entreprise ont le droit, par exemple, de demander à leur employeur pour s'assurer qu'ils sont, que l'employeur les a affiliés à l'INSS?
Demander, c'est peut-être aller assez loin, M. Jody. C'est automatique, aussitôt qu'on est employé. La première démarche, la loi dit, dans les 8 jours qui suivent l'embauchage du travailleur, l'employeur doit aller déclarer le mouvement d'embauchage.
Mais beaucoup ne le font pas.
Voilà, là, il y a violation de la loi, c'est tout.
Beaucoup ne le font pas. Et les travailleurs aussi sont ignorants, ils ne savent pas qu'ils doivent être affiliés.
Et peut-être le plus grand danger, je peux rajouter en disant, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui n'est pas immatriculé à l'INSS, un travailleur, mais à la fin de chaque mois, lors de la paie, il remarque sur son bulletin de paie un petit montant retenu de l'INSS. 1000 francs, 1500, ça dépend du salaire. Mais où va ce montant? Pendant que lui n'a pas de numéro, pendant que lui n'est pas immatriculé. C'est déjà un indice pour le pousser.
Fraude, hein?
Voilà, il y a, entre guillemets, hein, on peut dire.
Il y a beaucoup de...
Voilà, il y a beaucoup de dégâts ou beaucoup
de
d'abus,
fraude,
si,
beaucoup d'abus
dans ce sens-là. Oui. Alors, lorsque vous voyez qu'on vous retient le montant INSS pendant qu'on ne vous a jamais donné le numéro d'immatriculation...
Alors, où va cet argent?
Voilà, posez la question à votre employeur et obligez-lui de vous donner la carte d'immatriculation INSS pour être rassuré.
Si il y a certains employeurs, quand vous osez demander des choses comme ça, on vous menace de vous faire partir.
Voilà, des résiliations de contrat et par peur de voir son contrat être résilié, voilà. On préfère continuer à travailler dans la violation de droits que de réclamer ce qui vous revient de droit d'office, mais la loi est claire par rapport à cela et nous demandons à tous les employeurs de pouvoir bien respecter la volonté légale.
Bien, M. Jean-Paul Kalala, juriste et consultant indépendant, vous êtes aussi formateur à l'INPP, vous enseignez la sécurité sociale et bien d'autres matières. Peut-être qu'il y a certains auditeurs qui voudraient bien continuer à échanger avec vous après l'émission. Est-ce qu'on peut, vous pouvez donner vos contacts?
Oui, ça ne gêne pas. On peut me contacter facilement au 082 49 40 112 ou encore à 09 72 15 33 14. Mon adresse mail, c'est jeanpaul510@ymail.com.
@ymail.com.
C'est ça.
Nous rappelons les numéros 082 49 40 112 097 21 53 314. Jean-Paul, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, M. Jody.
Au capé.